Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous entrons dans le numéro 815 du catéchisme de l'Église catholique. Quels sont ces liens de l'unité, nous dit-il ce numéro, par-dessus tout c'est la charité. Alors ma question c'est, la charité existe réellement, mais elle est souvent invisible. Est-ce qu'il y a des choses visibles de notre unité? Est-ce qu'on peut visiblement percevoir l'unité de l'Église?
Oui, grâce à la vérité, car la charité, c'est la charité de la vérité, et c'est aussi la vérité de la charité. Les deux se tiennent, comme disait le pape Benoît XVI dans Caritatis, que cette belle encyclique qu'il nous a donnée, qui a rappelé que la charité appelait la vérité, que la vérité appelait la charité, qui a quelque chose donc important pour nous maintenir dans, je dirais, la transparence de ce cœur à cœur que Dieu demande à chacun dans l'Église avec Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc je ne peux pas vouloir garder, je dirais, le chemin de l'unité la vie de l'unité sans passer par la vérité. Il y a comme un chemin obligé de cette vérité tout entière où nous conduit le Saint-Esprit. Et je pense que c'est à travers cette audition de la vérité dans la parole de Dieu qui s'exprime, mais aussi à travers la tradition qui la porte, par le magistère qui sanctionne cette tradition, que la vérité dans la charité se maintient et que la charité dans la vérité se vit finalement.
Oui, oui. Et alors, il propose ce numéro 815 trois liens visibles de communion: la profession d'une seule foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin, surtout des sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. Alors j'ai trois questions qui pourraient susciter des interrogations sur ces trois points. Par exemple, les protestants et les orthodoxes professent la même foi que nous, donc sont-ils dans cette même unité de l'Église que nous?
Alors c'est une grande question que tu poses là à travers Unitatis Redintegratio, le décret sur l'œcuménisme du Concile Vatican II demande effectivement qu'il faut se tourner vers ce que nous avons en commun, et ce sera repris par Gaudium et Spes, qui suit le pape Saint Jean XXIII, de regarder d'abord ce que nous avons en commun avant de regarder ce qui nous désunit, ce qui nous divise. Et c'est vrai que nous avons un seul baptême, que nous avons la même parole de Dieu, et que nous avons, dans une certaine mesure, une même foi. Mais pour que la foi soit dans sa perfection, il faut qu'elle soit intègre, c'est-à-dire qu'elle soit donnée intégralement. Or, il y a la foi personnelle, subjective, que chacun reçoit et qui nous permet d'avancer au rythme des jours. Et puis, il y a la foi, je dirais, objective, à côté de la foi subjective, qui est cette profession de foi, profession d'une seule foi reçue des apôtres et explicitée au cours du temps. Et dans cette foi objective, il peut malheureusement y avoir des éléments qui ont été écartés au cours des siècles par certains qui n'ont plus la foi intégrale, qui ont la foi subjective en fonction de ce qui leur a été donné, transmis par leur père, dont ils ne sont plus d'une certaine manière responsables, ils n'ont plus la culpabilité de la scission, de la division, mais ils n'ont plus la foi intègre. Ils ont une foi subjective qui est la plus plénière possible à vivre, mais ils n'ont pas conservé l'intégralité de la foi objective à travers tous ces articles. Okay. Et on comprend très bien que, par exemple, par rapport aux quatre notes sur lesquelles nous avons médité, le protestantisme, dans le fond, nie la cause efficiente de l'apostolicité, hein, ne la regarde plus du tout, hein, et nie la succession apostolique. Okay. Et puis, il sépare énormément la cause, je dirais, finale, la sainteté, des autres notes, puisque, dans le fond, la cause formelle que nous avions regardée de l'unité est divisée, et la cause matérielle qui est la catholicité n'est plus envisagée de la même manière que l'Église catholique. Donc il y a dissociation des quatre notes que nous avons pu contempler à travers le mystère de l'Église. Alors certains diront, mais si, nous songeons qu'il n'y a en fait que des éléments qui sont ceux de l'Église catholique, qui leur appartiennent et dont ils vivent fort heureusement, mais qui les empêche, pour une part, de continuer le chemin d'une manière intégrale, d'une manière plénière. Alors, moins, évidemment, avec les frères séparés des églises désunies orientales, dans lesquelles il y a quand même la succession apostolique, et il y a les sacrements, les sept sacrements, et je dirais l'intégralité de la foi est moins profondément atteinte que dans les différentes écoles de la Réformation depuis le XVIe siècle, où cette kyrielle de communauté ecclésiale se divise sans cesse et perd à chaque fois des fragments de cette unique vraie Église qui subsiste dans l'Église catholique. Et donc il y a un souci dans le cœur des chrétiens de revenir à la prière du Christ, utunum sin, qu'il soit un, en prenant les moyens de la prière, de tout ce que le Seigneur nous a donné comme moyen pour une conversion personnelle, pour demander avec insistance cette unité de l'Église afin que tous croient, parce que dans le fond, le grand drame de ces divisions, c'est que cela fait péricliter le fait que le monde entier puisse croire devant ces divisions. Ces divisions sont un contre-témoignage à la foi et à la réception de la foi. Et donc, il faut sans cesse revenir à ces grandes, grandes prières de Jésus, la veille de sa passion, lorsqu'il s'adressait à son Père en lui disant « Que tout soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. »
Ah oui. Ça répond à une deuxième de mes questions autour de la succession apostolique, parce que dans la Fraternité Saint-Pie-X, on trouve cette succession apostolique, mais malgré tout, il n'y a pas une communion, une unité entre la Fraternité Saint-Pie-X et l'Église catholique. Alors, est-ce que... Donc voilà, ma question, c'est est-ce que malgré... Bien qu'on ait la succession apostolique, on peut ne pas être dans l'unité de l'Église?
Alors, on distingue dans la réception des sacrements leur validité de leur licéité. Et un sacrement est valide quand il a la forme valide, mais il est licite quand c'est l'autorité légitime qui demande que ce sacrement soit conféré. Or, le problème de ces communautés, donc, qui sont un peu borderline par rapport à l'Una Sancta, c'est qu'ils ont la validité, mais ils n'ont pas la licéité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le mandat apostolique pour que leur sacrement soit licite. Certes, ils ont la validité parce qu'ils ont été vraiment ordonnés selon la forme du rituel, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'intégralité, finalement, dans le domaine de la licéité. Et de ce point de vue-là, la fruition de leur sacrement est absente ou fortement diminuée selon les cas. Et nous devons prier pour qu'il y ait là aussi un retour à l'unité dans l'obéissance. Cette obéissance sans laquelle on ne peut rien faire. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », a dit Jésus. Et par où a-t-il commencé à manifester cette demande? Eh bien, à travers l'obéissance de ses apôtres, l'obéissance de ses disciples. Et sans cette obéissance, eh bien, évidemment, on perd énormément de ce message évangélique que Jésus est venu donner à son Église.
Il faut professer une même foi, intégralement la même foi, être dans cette succession apostolique. Et le troisième point, c'est avoir une célébration commune du culte divin et surtout des sacrements. Et on constate, quand on voyage, surtout en Orient, au Moyen-Orient, des grandes différences de célébrer les sacrements. Et pourtant, on est dans cette même unité de l'Église quand on va dans certaines églises orientales. Alors comment tu expliques ça, cette disparité dans la célébration des sacrements, alors que dans le numéro 815, il est demandé à ce qu'il y ait une célébration commune du culte divin?
Alors, bien sûr, le mot « commune », il faut le prendre au sens de la communion, au sens où l'Eucharistie fait l'Église, et le numéro 1396 dit bien que l'Eucharistie qui fait l'Église assure l'unité du corps mystique. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ, est-il dit. Par là même, le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps, l'Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l'Église déjà réalisée par le baptême. Dans le baptême, nous avons été appelés à ne faire qu'un seul corps. L'Eucharistie réalise cet appel. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. 1 Corinthiens 10, 16, 17. C'est finalement ce que Jésus a institué qui est important. Après, il y a ce que nous avions vu précédemment, la pluriformité légitime des rites qui sont dus à l'inculturation. Et nous nous souvenons toujours de cette grande parole, à mon avis, qui devrait être marquée au fronton de toutes ces dissidences. C'est cette parole de saint Irénée qui est rapportée par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique. « La multiplicité des coutumes confirme l'unanimité de la foi. »
Ah oui.
Admirable formule, donc, qui devrait être partout présente. À
Merci.
Bientôt.
À bientôt, Frère Edouard.